Bonjour Claude.
Bonjour Nicolas.
Des compteurs électriques qui prennent feu.
Oui, c'est arrivé vendredi vers midi au numéro 10 de la rue du 14 juillet, quartier de la Sépière à Toulouse, c'est dans la Dépêche, deux compteurs Linky ont pris feu. Il y avait de la fumée partout, raconte Christelle, copropriétaire. Heureusement que c'est arrivé dans les locaux professionnels du bâtiment. Vous imaginez si ça s'était produit dans un appartement ? Et Nicolas, de sa frayeur, Christelle excipe une colère. Ils sont tout neufs, ils n'auraient pas dû prendre feu. Ces compteurs Linky nous ont été imposés, on n'en voulait pas. Et aujourd'hui, ils nous mettent en danger. Voilà. C'est simplement un petit article de presse ce matin dans la Dépêche, mais il nous ranime une bataille sourde entre des consommateurs, des municipalités et Enedis, c'est la filiale de EDF dont les sous-traitants installent ces nouveaux compteurs Linky, intelligents, connectés, hyper communicants, qui vont permettre de réguler nos consommations et qui vont jouer un rôle dans la transition énergétique. Sauf que, chaque semaine et depuis des mois, dans la presse régionale, on voit d'autres petits articles qui, bout à bout, racontent une méfiance. Et à l'arrivée, est-ce que cela fait un mouvement social? Ces derniers jours, l'Est Républicain, édition de Verdun, une madame Gisèle Duret s'inquiète des risques d'incendie, tiens, des antennes, des radiofréquences cancérogènes, dit-elle, liées au compteur Linky. Journal Sud-Ouest, à Libourne, dans la salle des fêtes, plus de 200 personnes ont participé à une réunion publique contre les compteurs Linky. Ce compteur, a dit un avocat, peut déterminer et enregistrer votre style de vie. Les entreprises privées qui achèteront ces informations pourront tout savoir des comportements des citoyens. La Dépêche raconte une réunion à Montauban, à la Maison du Peuple. Centre-France raconte une réunion à Clamecy. Et le Parisien raconte que dans l'Essonne, la police municipale de hier est intervenue 11 fois ces derniers temps pour empêcher l'installation de compteurs Linky. Hier, je vous le rappelle, est la ville de Nicolas Dupont-Aignan. Tout ceci dessine une peur qui n'est pas seulement irrationnelle. Se référer au numéro d'octobre de la revue Que Choisir, mais cela dessine surtout un sujet politique entre d'une part un corps social rétif qui a l'impression qu'on lui force la main et d'autre part une entreprise superbe de puissance et de progrès, Enedis, qui pour tenir ses objectifs met la pression sur ses sous-traitants qui mettent la pression sur les consommateurs. Le journal Fakir, c'est le journal du député insoumis de la Somme, François Ruffin. Le journal Fakir donc raconte la visite chez un de ses journalistes de l'employé d'un sous-traitant de Enedis, un jeune homme de 25 ans presque timide, mais qui ment au client en disant que la pose du nouveau compteur était obligatoire et puis qui admettait chez les particuliers on y va et on revient jusqu'à ce qu'ils disent oui, parce que c'est vrai, beaucoup disent non. Dites si la boîte vous appelle, vous leur dites bien que je suis passé, sinon je peux avoir de gros problèmes. Nicolas, voici l'enjeu social derrière une bataille énergétique à hauteur d'homme effrayé.
Un homme précisément, Claude, a transformé son ADN
tout seul et pour devenir ce que je suis insuffisamment musclé. Il s'appelle Josiah Zainer. Son histoire est racontée dans lemonde.fr, le monde qu'il a rencontré dans son pavillon d'Oakland en Californie. Josiah a 36 ans, il est biochimiste et en octobre dernier, je cite, il s'est injecté dans l'avant-bras de quoi modifier les gènes de ses cellules musculaires. Personne ne l'avait fait avant lui. La scène est en ligne, elle n'a rien en soi de spectaculaire, mais Josiah Zainer non plus, un simple trentenaire barbu à mèche blonde qui dit avoir peur des piqûres et qui se nourrit des, je cite, meilleurs hamburgers de Californie du Nord. Sauf que ce monsieur tout le monde, surdoué des sciences, est le héros des biohackers, ces hackers qui pensent que la génétique peut nous transformer et qu'elle nous appartient. Citation du prophète. Pour la première fois dans l'histoire, les humains ne sont plus esclaves de leur patrimoine génétique. Doit-on limiter cette liberté aux laboratoires universitaires et aux grandes compagnies privées? Fin de citation. Derrière l'histoire de Josiah Zainer, il y a l'aventure de CRISPR-Cas9. C'est une protéine qui est capable de découper l'ADN, ce qui caractérise le vivant. C'est l'outil, le ciseau, l'arme absolue de la transformation génétique. Eh bien, Zainer a décidé de la commercialiser dans sa start-up. Il a mis au point des kits, il les vend dans tout le pays, $28 à $159. Et il est passé d'une génétique amusante, transformer la bière pour la rendre fluorescente, à quelque chose de plus sérieux. L'homme est d'abord lui-même cobaye de sa technique. Il a guéri ses problèmes intestinaux, il n'a pas réussi à se faire bronzer. Et maintenant, il veut bloquer sa myostatine, c'est la protéine qui limite notre croissance musculaire, pour faire parler de lui ou pour convaincre que le nouveau monde est là. Pour le moment, dit-il, on ne voit rien, mais, il regarde son bras tous les jours. Josiah Zainer, nous le regardons avec lui.
Et Yannick Noah, Claude, est dans l'équipe.
Qui lui, Yannick Noah, n'a pas eu besoin de se modifier le génome pour rester beau, à chaque étape de sa vie. Mais il a changé, Yannick, nous dit l'équipe. C'est ce que retient le quotidien sportif en page intérieure, très subtilement, dans un article à lire, parce qu'il colore de nostalgie le moment patriotique. L'équipe raconte Noah qui avait, je cite, « des allures de sexagénaire, le cheveu de plus en plus grisonnant, le regard perdu, presque triste derrière ses besicles de vieux sage. » Et vous lirez, Nicolas, nous lirons ce portrait d'un homme endeuillé par la vie, qui a mené au combat de jeunes tennismen, qui n'avait pas forcément besoin de lui et qui le lui faisait comprendre et qui le décevait, et le temps passe, même si la victoire justifie tout. Tout vraiment ? Dans Libération, un journaliste mécréant du nom de Grégory Schneider relativise notre victoire. Après tout, le joueur le mieux classé en simple que les Bleus ont battu dans leur épopée n'était que 44e mondial. Et Schneider parle d'un Noah un peu sépia qui aurait récupéré sur le tard une petite plage de gloire. Petite. On entend cela, peut-être est-ce mon âge, mais ce matin, il est heureux que l'équipe, par son portrait de Noah, démente son titre de une, un pur bonheur. Non, Nicolas, le bonheur est toujours impur et c'est tellement mieux ainsi.
Claude Ascolovitch.